France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, comment agir pour le cœur des femmes? Car oui, les femmes ont aussi un cœur et elles en souffrent autant que les hommes, si ce n'est plus. C'est même, en ce qui les concerne, la première cause de mortalité. Sauf qu'en matière de prévention, MeToo n'est pas encore passé par là, et que les femmes ne s'écoutent pas assez. Elles s'occupent d'abord des enfants, des parents, des conjoints, et quand elles pensent enfin à elles, c'est parfois trop tard. D'où l'opération Agir pour le cœur des femmes, qui a lieu en ce moment, à destination des plus précaires, car là aussi les inégalités coûtent cher. Un bus spécialement équipé est parti de Lille, il a fait étape à Marseille, à Avignon, il sera bientôt à Saint-Étienne et La Rochelle. À chaque fois, l'objectif est le même, prévenir plutôt que guérir. Avec nous pour en parler ce soir, deux invités que je salue. Bonsoir Claire Mounier-Veillé.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de cardiologie à la faculté de médecine de l'Université de Lille. À l'origine de cette opération Agir pour le cœur des femmes, vous avez publié aux éditions Marabout « Mon combat pour le cœur des femmes ». C'est bien ça?
C'est bien ça.
Bonsoir Muriel Salle.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste des questions de genre et de médecine, enseignante à l'Université de Lyon, co-autrice de « Femmes et santé », encore une affaire d'homme, publiée chez Belin. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Merci à tous d'appeler France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous partons à Lyon retrouver Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir appelé le standard de France Inter, Isabelle. Vous souhaitiez nous raconter votre mésaventure?
Alors moi, je voulais apporter mon témoignage. En fait, donc j'ai 59 ans. J'ai été victime d'un infarctus en fin d'année dernière et le cardiologue qui me suit m'a proposé ensuite, quelques mois après, de suivre un programme de réadaptation cardiaque parce qu'il m'a expliqué qu'en fait ça améliorait le pronostic. Donc j'ai accepté et donc j'ai suivi ce programme pendant 6 semaines. Et en fait, quand je suis arrivée dans le centre de rééducation, j'ai été surprise que dans le groupe où on était, un groupe de 10 personnes, j'étais la seule femme. Donc il y a une deuxième femme qui nous a rejoint par la suite, mais on est resté deux. Et quand j'en ai parlé à la cardiologue référente, elle m'a dit qu'en fait, c'était toujours comme ça, qu'il y avait très peu de femmes, malgré le fait qu'elles soient quand même victimes d'accidents. Donc je me demandais si c'était parce que les femmes ne prenaient pas le temps de se soigner ou parce que le corps médical ne leur proposait pas cette rééducation. Voilà.
Isabelle, merci pour ce témoignage. On va évidemment répondre à votre question, mais puisque je vous ai au bout du fil, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question, moi aussi, et de vous demander comment ça vous est tombé dessus, ce problème cardiaque?
Bah, en fait, moi, j'avais pas de facteur de risque. Voilà, je pensais que j'étais en bonne santé. Et ça m'est arrivé, donc, un soir, j'ai eu des symptômes apparemment qui sont pas très classiques. Voilà, j'ai eu une vague douleur, enfin, que j'ai quand même ressentie, mais sans tout ce qu'on décrit habituellement.
Sans trop comprendre au départ ce qui vous arrivait, c'est ça?
Non, oui, je me suis vraiment posé la question. J'ai cru, pour vous dire, que comme j'avais fait du yoga deux jours plus tôt, j'ai cru que j'avais un peu mal au dos parce que je m'étais déplacé quelque chose. Voilà, et donc j'ai attendu le lendemain pour aller consulter tranquillement parce que je pensais vraiment pas que ça serait un problème cardiaque. Et donc je suis ressortie du cabinet du médecin avec le SAMU, les pompiers, voilà.
Et maintenant, ça va mieux?
Oui.
Eh ben, on se réjouit pour vous, Isabelle. Merci beaucoup.
Merci.
Pour votre appel. Claire Mounier-Veillé, on va peut-être d'abord réagir à la première question d'Isabelle sur effectivement le fait, oui, qu'en réadaptation, les dames sont un petit peu absentes.
Ben effectivement, on a même une étude de Santé publique France sur les enjeux de la réadaptation cardiovasculaire en France. Il n'y a que 12% des femmes après un infarctus du myocarde, donc quand cette coronaire se bouche, qui vont en rééducation. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas que la faute au docteur, c'est aussi des femmes qui ne veulent pas aller en rééducation parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas le temps d'y aller, parce qu'elles ont leur famille, leur travail, elles veulent y rester le moins de temps possible. Il y a beaucoup de femmes précaires, en situation de précarité, on y reviendra peut-être, qui sont les premières victimes de ces infarctus du myocarde, car fumeuses, car stressées, car en isolement social. Et ces femmes-là, finalement, elles ont aussi des métiers très très précaires, et elles peuvent pas se permettre de ne pas gagner leur vie. Donc finalement, le soin, c'est quand il n'y a plus rien d'autre à faire. Hein. Donc sa réaction, je la comprends. Et effectivement, les femmes sont même gênées en rééducation de se retrouver une pour dix quelque part.
Et pourtant, cette réadaptation, elle est importante, j'imagine.
Ça permet de réduire de moitié le risque de récidive. Et la réadaptation, bon, le cœur est un muscle, c'est une pompe. Et finalement, quand on se fait une entorse, on va chez le kiné, on trouve ça normal. Eh bien, l'infarctus, c'est comme une entorse du cœur. Et aller en rééducation, ça va redonner de l'énergie, la capacité de contraction de ce muscle cardiaque. Et en même temps, on a des ateliers éducatifs qui permettent aussi aux gens de comprendre la maladie, de l'accepter, hein, parce que la dame le dit très bien, j'étais pas malade et le lendemain, je me retrouve avec un infarctus. Donc c'est accepter la maladie, se faire accompagner, accepter les traitements, les comprendre, et puis tout l'environnement diététique également, et la gestion du stress.
Donc il y a toute une information à donner et on va le faire jusqu'à 20h. Muriel Salles, sur ce que disait Isabelle, sur effectivement le fait que les dames ne prennent pas le temps, ce que dit aussi Claire Mounier-Veillé, vous qui êtes historienne, hein, qui on le reprécise, qui travaillait sur la question des inégalités de genre en matière de santé, c'est quelque chose qui vous surprend pas?
Alors c'est quelque chose qui ne me surprend pas pour au moins on va dire trois séries de facteurs. La première chose, c'est que s'engager dans un parcours de réadaptation, ça veut dire s'engager dans ce qu'on appelle les activités physiques adaptées. Et dans activité physique adaptée, il y a activité physique. Or, on sait qu'il y a une inégalité femmes-hommes dans l'engagement dans les activités physiques, même quand on n'est pas malade.
Au départ, elles font moins de sport.
C'est ça, et aujourd'hui, on sait, et c'est documenté, que par exemple, les jeunes filles s'engagent moins dans l'activité sportive dès un âge précoce, bien avant la survenue d'un accident cardiovasculaire. Parce que effectivement il y a la question du temps qui se pose aux mères de famille, mais la question de l'engagement dans l'activité sportive, c'est quelque chose qui, pour des raisons de ce qu'on appelle stéréotypes de genre, est moins fait par les filles que par les garçons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Isabelle l'a bien dit, et ça a été repris par Claire Mounier-Veillé, c'est le fait que les femmes manquent de temps. Les femmes manquent de temps parce que les femmes assument des charges parentales de manière toujours considérable. Et puis parce que les femmes aujourd'hui dans notre pays, elles travaillent, figurez-vous, à presque 70% pour la tranche des 15-64 ans. Et donc à un moment, on a un problème d'articulation des temps de vie. Ça vaut pour prendre soin de soi et aller au yoga par exemple. Ça vaut aussi pour prendre soin de sa santé. Puis il y a une troisième chose intéressante dans ce qu'a dit Isabelle, c'est le fait que elle a présenté des symptômes qui ne sont pas tout à fait typiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez révélateur. En tout cas, ça nous conduit à nous interroger sur la façon dont sont construits les savoirs médicaux. Et ça nous permet de souligner que très souvent, ces savoirs médicaux, ils souffrent de ce qu'on appelle un biais d'androcentrisme, c'est-à-dire qu'ils sont pensés sur la base hommes. D'un standard qui est le corps masculin. Et donc, le symptôme classique, celui auquel on pense habituellement pour la crise cardiaque, c'est un syndrome, en fait, un symptôme d'homme. Et les symptômes féminins étant atypiques, eh ben, ils sont pas repérés ou repérés plus tardivement. Et donc, du coup, les conséquences de l'accident cardiaque sont plus complexes.
On va évidemment les répertorier, ces symptômes, Claire Mounier-Veillé, très précisément. Mais on va tout de même repartir au standard avec une question qui nous vient de Grenoble. Jean-Yves est au bout du fil. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Merci de m'accueillir.
Vous aviez une question, Jean-Yves.
Un peu seul, là, au milieu d'une émission de femmes.
Mais pas du tout, Jean-Yves. C'est une histoire collective.
Et voilà. Bon, moi, j'ai toujours entendu dire, depuis des années, que la première cause de mortalité chez les femmes, c'était le cancer du sein. Et là, maintenant, ce soir, vous me dites, non, c'est le cœur. Bon, cancer du sein, le cœur, c'est pas bien loin, mais ça n'a rien à voir. Et je voudrais savoir, quoi. Et je sais de quoi je parle, parce que du cancer du sein, j'ai perdu une sœur, et j'ai une deuxième sœur qui a attaqué sa troisième chimio hier. Donc, c'est quoi cette concurrence entre c'est nous les premiers, non, c'est nous, ça me choque un peu, quoi, c'est bizarre. Parce qu'avant, on n'en parlait pas de cardio chez les femmes.
Eh ben, on va vous répondre. Merci Jean-Yves pour cette question. Claire Mounier-Veillé,
c'est clairement la première cause. C'était autrefois la première cause de mortalité, mais depuis, fort heureusement, on a eu des campagnes de dépistage proactif, on propose aux femmes un fameux dépistage à partir de 50 ans. Et plutôt pour les familles, comme la famille de Jean-Yves, de famille de cancer du sein. En France, effectivement, comme tu le disais Muriel, la médecine a été enseignée avec des caractéristiques masculines. Or, nous les femmes, nous sommes exposées depuis environ 50 ans au même, à cet environnement délétère, parce qu'il faut pas oublier que cette maladie cardiovasculaire qui tue 200 femmes par jour, et sans vouloir opposer les maladies, parce qu'il y a quand même un trait d'union qui est l'environnement et l'hygiène de vie, ça tue 200 femmes par jour, et c'est effectivement 6 fois plus que le cancer du sein. Ce sont des chiffres de Santé publique France, des études épidémiologiques, où on ne raconte pas d'histoire pour vendre une maladie plutôt qu'une autre. On est d'abord des soignants. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder la femme dans sa globalité. Mais néanmoins, les chiffres sont là. 200 femmes par jour qui décèdent d'une maladie cardio-cérébrovasculaire, c'est l'équivalent de la population de Cannes sur une année. Donc ça, c'est quand même interpellant. C'est une progression des hospitalisations de 5% par an dans la tranche d'âge 35-55 ans. Et en fait, en cause, c'est notre hygiène de vie. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que dans 8 cas sur 10, on peut éviter l'accident par un repérage, un traitement des facteurs de risque, comme nous le faisons avec Thierry Drillon, qui est cofondateur à mes côtés d'Agir pour le cœur des femmes. Donc ça, c'est, voilà, c'est, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, agir plutôt que subir. Et pour répondre, pour terminer sur le questionnement de Jean-Yves, c'est que les femmes qui ont eu un cancer du sein ne doivent pas être laissées pour compte, car celles qui ont une radiothérapie, une chimiothérapie, notamment du sein gauche, sont à plus haut risque d'insuffisance cardiaque et de maladies coronaires. Donc finalement, ces femmes, il faut absolument les surveiller dans le long terme.
Donc pas de concurrence entre les maladies, Jean-Yves, ça c'est une certitude. Mais encore un mot, Claire Mounier-Veillé, y a-t-il une progression des cas d'infarctus, par exemple, dans notre pays, oui, chez les femmes? Est-ce que c'est une maladie qui est en progression? Et puis peut-être qu'on s'arrête aussi sur la définition des maladies dont on parle, parce qu'on a dit infarctus, il y en a d'autres.
Oui, alors d'abord, les maladies cardiovasculaires, vous avez tout à fait raison, c'est la maladie du muscle cardiaque. Donc ça peut être un cœur un peu hypertrophié ou qui se dilate, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, le cœur qui est plus capable de faire sa fonction de pompe, de chaudière. Ensuite, c'est la maladie des artères du cœur, les coronaires. Donc quand l'artère se bouche, eh bien on parle d'infarctus du myocarde. Ensuite, vous avez la maladie des petites portes du cœur, ce qu'on appelle les valves cardiaques, qui peuvent être soit rétrécies, soit fuyantes. Donc, celle qu'on connaît le mieux, c'est le rétrécissement aortique, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, où on remplace par une prothèse, on passe par les artères, et non sans ouvrir le cœur. Et puis, vous avez tout ce qui est également maladie des veines, hein, la phlébite, l'embolie pulmonaire, font partie de ce grand melting pot de maladies cardiovasculaires. Et j'en oublie certainement. Après, vous avez ce qu'on appelle l'hypertension artérielle maladie, quand cette hypertension, donc des chiffres de pression artérielle en consultation supérieurs à 140-90, qui sont associés à une atteinte du cœur, des vaisseaux ou du rein. On parle de maladie hypertensive. Voilà.
En tout cas, j'ai bien compris que c'était des maladies qui étaient en progression et que c'était un vrai problème de santé publique qu'il faut, oui, absolument prendre en compte. Muriel Salles, juste peut-être sur ce que nous disait Jean-Yves, sur le côté, ben, je me sens un peu ce soir, vous parlez des femmes, nous les hommes, qu'est-ce qu'on peut dire de cette espèce de côté concurrence aussi
Alors, je crois pas du tout qu'il faille appréhender les choses en termes de concurrence. En revanche, ce qui est certain, c'est que on assiste à une mise en visibilité de cette évidence qui est que les êtres humains se trouvent être de sexe féminin ou de sexe masculin, et que ça a des conséquences sur le fait qu'on a des corps qui sont différents, qui fonctionnent de manière différente, et qui du coup peuvent être malades de maladies différentes ou malades différemment des mêmes maladies. Et un tout petit mot sur le cancer, parce que le cancer est une maladie qui a une histoire intéressante. Le cancer est une maladie qui, historiquement, est pensée comme une maladie de femmes. Parce que quand il touche certains organes, notamment le sein, d'abord le sein, c'est la maladie, on va dire, un peu emblématique de la féminité. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, on le traite à un stade précoce, mais il faut se souvenir que dans un passé plus lointain, les tumeurs, quand elles apparaissaient au niveau de cet organe-là, elles étaient aisément palpable, visible, et donc du coup on a beaucoup associé le cancer à l'idée de la féminité, d'où ce qui est quand même on va dire un stéréotype. Et en matière de maladies, il y a aussi des stéréotypes qui associent, voilà, certaines maladies à la féminité, d'autres maladies à la masculinité, et ça pose des problèmes de dépistage. On repère mal la maladie cardiovasculaire chez les femmes, on repère aussi très mal l'ostéoporose chez les hommes, et je dis ça pour du coup peut-être couper court à toute interprétation sur le mode de la concurrence, et pour avoir le souci de rétablir l'équilibre.
Voilà, problème de santé publique global, on est tous dans le même bateau, tous ensemble. Nous partons dans Lyon retrouver Guy. Bonsoir Guy.
Bonsoir. bonsoir, Madame Servajon, et merci d'être là le vendredi.
Ah bah, je vous en prie.
Je suis un vieux médecin retraité et j'ai bien écouté l'exposition de vos deux intervenants. Les femmes n'ont pas de temps. Les femmes se féminisent moins et se masculinisent dans la profession, dans le stress, dans les tabac, dans l'alcool, etc. Et en plus de ça, ma question ce soir sera la suivante. Moi, j'ai noté dans mon exercice le fait que les âges où les jeunes filles font, les femmes, pardon, font des nécroses, myocardies, des infarctus, des AVC, rajeunissent. Et je me demande quel est l'effet des pilules contraceptives sur ce rajeunissement des accidents vasculaires cérébraux et vasculaires myocardiques. J'en ai de plus en plus l'impression que ça rajeunit et qu'effectivement, on va arriver à des taux de mortalité qui vont s'inverser. Bon, tant mieux, parce que le cancer du sein est pris beaucoup plus tôt, mais disons que les maladies vasculaires, on n'a pas tellement de prédictions à part l'obésité, diabète, hypertension, mais on dit toujours, oh, les femmes, non, dans le temps, elles n'avaient pas de tension, elles étaient moins pathologiques. Voilà.
Vous êtes un ancien médecin, Guy, d'après ma petite fiche ?
Oui, en retraite. Et je disais, est-ce que effectivement les pilules qui sont consommées l'argamanu, je pense, est-ce qu'elles n'influencent pas sur...
Répondre.
Voilà, merci.
Merci beaucoup Guy pour cette question. Claire Mounier-Veillé sur l'effet des traitements hormonaux, c'est une vraie question.
Façon, effectivement, ça fait partie des actions d'Agir pour le cœur des femmes. On alerte sur les spécificités hormonales du risque cardiovasculaire. Alors le risque pour les auditeurs, c'est la probabilité de faire un accident quand on est en présence d'un élément, on va dire, le médecin parlait de la contraception ou l'hypertension ou le tabac, quelle est la probabilité de faire cet accident. Alors effectivement, les femmes, on a des situations hormonales spécifiques, dont la contraception avec œstrogène de synthèse. C'est pas n'importe quelle contraception. Néanmoins, c'est la contraception orale, ce qu'on appelle la pilule, mais ça peut être aussi l'anneau vaginal avec des œstrogènes de synthèse, ou encore le patch contraceptif. Et c'est pas les mêmes hormones que celles qu'on donne au moment de la ménopause. Ça, il faut bien que les femmes comprennent ça, c'est pas les mêmes hormones. Donc, dès lors qu'on a de l'éthinyl estradiol, eh bien, effectivement, chez certaines femmes, surtout si elles sont fumeuses, mais là, je rentre en ligne de compte, hein, puisque c'est surtout à partir de 35 ans que le risque d'accident artériel commence à augmenter. Et puis, chez les femmes également qui sont migraineuses. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Parce que vous voyez, on était donc au bus du cœur, on en reparlera peut-être sur Avignon aujourd'hui. Et finalement, en questionnant ces femmes, des femmes qui ont des migraines, avec ou sans aura, la plus connue, c'est la migraine ophtalmique, et aussi si elles sont surpoids, on ne doit pas leur mettre ce type de contraception. Et il y en a d'autres en France, il y a des alternatives. Muriel t'en reparlera peut-être, mais il y a d'autres possibilités de contraception efficace en France. Il n'y a pas que cette période-là, hein, on y reviendra peut-être, mais il y a également la grossesse, les grossesses sont de plus en plus tardives et à risque, avec des risques d'hypertension, de diabète gestationnel, et puis il y a d'autres, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc finalement, les hormones chez la femme, la situation hormonale de la femme peut impacter le risque d'accident cardiovasculaire. C'est vrai que monsieur a tout à fait raison par rapport à ça. Donc il faut être particulièrement vigilant.
Muriel Salle, sur ce point-là.
Alors moi, je voudrais réagir à deux choses. La première, c'est une expression qu'a utilisée Guy, quand il dit « les femmes se masculinisent au regard du travail, du stress, du tabac ». Moi, je pense qu'on pourrait formuler les choses un petit peu différemment, en disant que les femmes d'aujourd'hui, elles essayent de se faire une place dans un monde qui n'est pas fait pour elles, et qui est un monde d'hommes, et que du coup, on a à leur endroit des exigences qui sont nouvelles, travailler, par exemple, parce que ça devient une nécessité économique quand même pour l'immense majorité des foyers, mais qu'il y a des choses qui changent comme ça, puis il y a d'autres qui persistent. Par exemple, le partage des tâches parentales ou domestiques. Et donc, il y a une partie de ce stress induit qui est liée au nouveau rôle des femmes dans la sphère professionnelle, mais à la persistance de rôles traditionnels qui font que ça finit par frotter parce que en fait, les journées des femmes sont les mêmes que celles des hommes et n'ont donc que 24 heures et donc d'où ce...
Et donc les hommes feraient bien de se féminiser pour enlever un petit peu de boulot aux femmes.
Si on pourrait,
ce serait bon pour le cœur aussi.
Si on reprenait l'expression qui a été celle de Guy, on pourrait dire voilà que peut-être que le problème c'est peut-être pas la masculinisation des femmes, mais bien effectivement le partage et l'articulation des envies. Puis la deuxième chose importante, parce que Claire Mounier-Veillé m'y a invité à rappeler, c'est que la contraception n'est pas réductible à la pilule, même si on est dans un pays de pilules. Voilà, on prescrit beaucoup la pilule. D'abord, il y a d'autres moyens de contraception pour les femmes. Ils sont nombreux. Ils sont pas tous hormonaux. Voilà.
Le débat commence à avancer sur ce point-là.
Le débat commence à avancer sur ce sujet-là. À quoi on pourrait ajouter que la charge, ce qu'on appelle la charge contraceptive, elle incombe quand même dans l'immense majorité des cas aux femmes. Or, non seulement les contraceptions féminines sont diverses, mais il existe aussi des contraceptions masculines.
Et là, le débat ne fait que commencer.
Et là, on ouvre juste un débat, effectivement. Donc là encore, on pourrait partager le travail, si je puis dire.
On va repartir au standard, retrouver Thierry, qui est à Gif-sur-Yvette. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Moi, je suis coronarien depuis 10 ans, donc j'ai fait un infarctus avec des symptômes qui, pour les hommes, sont relativement faciles à identifier, quoique moi, je me suis un peu planté, il m'a fallu une journée pour réaliser, mais heureusement, je suis encore là pour en parler. Et j'ai l'impression, enfin, où j'ai aussi quand même un peu utilisé le truc, que pour les femmes, c'est pas aussi évident. Et donc, ce serait bien de remonter à l'origine et donner les clés
à
mes consoeurs pour leur dire appelez le 15 et puis voilà quoi.
Merci Thierry, merci beaucoup pour cette question qui est absolument essentielle, hein, professeur Mounier-Veillé.
Alors déjà, effectivement, la maladie est différente, vous avez raison de le souligner, monsieur. Avant la ménopause, ce qui fait l'infarctus du myocarde est différent entre un homme et une femme. Un homme, en fait, c'est une maladie, c'est des lésions, des sténoses qui vont réduire la lumière de l'artère. On a tous fait de la jardinerie, et quand le tuyau se bouche et qu'on a besoin d'arroser plus, eh bien, quand on n'est pas capable d'arroser, ben ça se traduit par une douleur. Chez les femmes, ça va être plutôt une maladie très sournoise. On s'est tous fait des ampoules. Eh bien, la plaque d'athérome va s'ulcérer, va se déchirer. On peut aussi avoir des lésions, les artères qui font la poupée russe, qu'on appelle la dissection, et encore des spasmes artériels. Donc, une maladie qui est différente et qui va toucher aussi des territoires différents. Et notamment, les femmes sont plus fréquemment atteintes de l'artère coronaire droite, qui vascularise la paroi latérale du cœur et le plancher du cœur, et l'artère circonflexe. Et finalement, l'innervation de cette partie du cœur est très mitoyenne de celle de l'œsophage et de l'estomac, d'où les symptômes digestifs un peu plus fréquents. Et après, nous avons un essoufflement à l'effort, une fatigabilité à l'effort, mais les femmes qui connaissent très bien leur corps vous disent c'est pas la même chose que d'habitude. Elles vont avoir des douleurs entre les omoplates, mais c'est les symptômes qui vont se répéter, qui vont souvent être associés. Et quelque chose pour moi qui est très important, c'est la notion d'angoisse. Généralement, elles commencent à se dire, il y a une petite sonnette dans leur tête, il y a un truc qui va pas, comme avait dit la première auditrice tout à l'heure. Et vous avez sur le site d'Agir pour le cœur des femmes, dans les fiches pratiques, on a fait justement une représentation sous forme de picto, qui peut intéresser Muriel comme sociologue, où finalement on n'a pas besoin de lire le français. On a mis cette affiche, les symptômes de l'infarctus, hommes et femmes, en sachant quand même que la douleur typique en étau qui va dans la mâchoire et le bras, elle signe simplement une occlusion brutale de l'artère et elle concerne quand même une femme sur deux. Faut pas dire que les femmes ne font pas de douleur thoracique typique. Une femme sur deux le fait, mais l'autre moitié va faire des symptômes bâtards. Et c'est effectivement leur enseigner ces symptômes et leur dire si vous fumez, si vous avez de l'hypertension, si vous êtes stressé, si surtout vous avez de l'hérédité, eh bien, on n'attend pas. Et on fait le 15, on est là pour ça, sinon on change de métier.
Peut-être une petite question qui nous arrive sur franceinter.fr et qui va dans ce sens-là aussi. Bérénice, qui nous dit « J'ai fait un infarctus à 35 ans. Un an avant, j'avais consulté un cardiologue qui m'avait dit que je faisais de la déprime. » Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce genre de réponse à les Muriel
Salles ? C'est peut-être une question pour les sciences humaines, effectivement. Ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, en tout cas, moi, c'est ce pourquoi je plaide depuis maintenant de nombreuses années, notamment dans les enseignements en faculté de médecine, il y a à former des soignants sur deux concepts que moi, je pense complémentaires, qui sont le concept du sexe, on l'évoquait tout à l'heure, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, et puis un autre concept qui est le concept du genre, c'est-à-dire qu'il y a des vécus différents différents qui sont ceux des femmes et ceux des hommes. Et dans cette perspective-là, former les soignants à entendre qu'une femme qui se plaint, par exemple, d'un sentiment d'oppression cardiaque, il ne faut pas lui apporter immédiatement une réponse sous l'angle de la psychologie ou de la psychiatrie. Voilà, ne pas la renvoyer à son angoisse, parce que ça repose sur un stéréotype qui est que les femmes sont plus émotives, plus enclines à se laisser submerger par leurs émotions. Et il faut peut-être dire deux choses. D'abord, dire aux femmes qu'il faut qu'elles soient, comment dirais-je, solides sur leurs appuis quand elles ont quelque chose à dire à leur médecin. Claire Mounier-Veillet disait tout à l'heure, quand une femme vous dit « c'est pas comme d'habitude », je crois que la première experte de son propre corps, c'est quand même effectivement la patiente. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut que les soignants apprennent à écouter les femmes quand elles disent ceci. Et puis, il faut ici que les soignants acceptent de travailler sur leurs propres stéréotypes. Voilà, une femme, elle n'est pas forcément juste sujette à des humeurs ou à des angoisses.
Et bien, on a justement un témoignage qui va dans ce sens. C'est Marion qui est au bout du fil. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Vous avez fait un infarctus et au début, on vous a pas trop cru, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait un infarctus au mois de mai, donc j'ai été aux urgences. Et là, on a tout de suite considéré que je faisais une crise d'angoisse parce que j'avais précisé que que je prenais un peu régulièrement des anxiolytiques. Et en fait, ça a duré assez longtemps, les symptômes classiques, en fait, une barre au-dessus de la poitrine. Et en fait, donc j'étais accompagnée par ma femme, qui a insisté plusieurs fois auprès du personnel pour dire que vraiment ça n'allait pas. Je suis tombée dans les pommes, j'ai vomi, enfin bon, j'avais beaucoup de symptômes. Et il a fallu 3 heures pour qu'ils acceptent de voir qu'il y avait un infarctus, puisqu'ils ont même été jusqu'à dire que c'était une crise d'hystérie. Et donc, ils ont considéré, enfin, je pense que si j'avais été un homme, on n'aurait pas... Le personnel n'aurait pas agi de cette manière. C'est très très désobligeant, je trouve, pour les femmes. Et il y a en effet une formation à donner au personnel soignant pour qu'il considère les douleurs des femmes non pas comme des lubies ou des symptômes psychologiques, mais vraiment comme pouvant être des graves symptômes, quoi.
Merci Marion pour ce témoignage. Claire Mounier-Veillet, c'était aux urgences en plus là.
Alors malheureusement, le cas de Marion n'est pas seul. Il existe et j'ai envie de vous dire, elle prenait des anxiolytiques, mais le stress est le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde, notamment chez la femme. Ce facteur de risque-là est plus puissant en termes de toxicité sur une coronaire de femme que sur une coronaire d'homme. Donc finalement, on communique énormément avec les urgentistes, avec le SAMU, avec les pompiers. C'est un travail de longue haleine. On a des témoignages qu'on a mis aussi sur le site d'Agir pour le cœur des femmes, des vraies histoires comme celle de Marion. Et finalement, je pense que, ne serait-ce qu'en faisant cette émission ce soir comme vous faites, eh bien, les gens qui vous écoutent, ils vont entendre, et ça, c'est la prévention Colibri. On se donne l'information. Sur les bus du cœur, on a dépisté 600 femmes entre ces 3 villes, Lille, Marseille, Avignon. Sur les 600 femmes précaires, 9 sur 10, on leur a trouvé un facteur de risque ou une absence de suivi ou de diagnostic. Donc on a sauvé la vie de 600 femmes.
Expliquez-nous alors justement, ce bus, c'est un bus qui est équipé pour des consultations,
oui,
pour une forme de diagnostic, de bilan.
Alors déjà, c'est une initiative avec Thierry Drillon, qui est un chef d'entreprise, donc c'est pas un médecin. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire un chef d'entreprise dans un programme de prévention comme celui-ci ? C'est en ayant des hommes comme ceux-là, qui s'investissent au sein de l'entreprise pour mener ces messages de prévention au sein des entreprises, mais également pour nous aider à porter des projets, pour trouver des partenaires, parce que c'est une...
Pour trouver des moyens, quoi.
Il faut trouver des moyens financiers, et finalement, s'il n'y a pas cette alliance médico-sociétale, eh bien ça ne peut pas marcher, parce que nous sommes des médecins, on ne sait pas gérer des partenariats, trouver des partenaires, c'est compliqué, et néanmoins, grâce à ces partenaires, on a également un grand mécène qui est Marc Ladret de la Charrière, je tiens à le souligner, qui travaille sur la précarité, et qui nous a permis d'équiper ces bus, enfin ce bus pour l'instant, d'un dépistage cardiovasculaire avec une mesure de pression artérielle, puisque c'est la porte d'entrée la plus simple dans le risque cardiovasculaire de la femme, un dépistage métabolique, avec poids, taille, mais également prise de sang au doigt sur les lipides.
À Avignon aujourd'hui.
Voilà, c'est ce qu'on a fait à Avignon aujourd'hui. Donc, on a fait 175 femmes, ce qui est bien, sur 3 jours. Avec, faut pas l'oublier, 45 bénévoles impliqués, libérales, publics. Donc, c'est vraiment tout un écosystème d'acteurs, où on mélange tout le monde. Finalement, c'est un projet sociétal. Et puis après, on termine par un entretien, gynécologique, où là, on a fait des repérages monstrueux. Là, c'est 100% des femmes qui n'avaient plus de suivi. Donc, le monsieur qui parlait du cancer du sein, il y a des femmes qui n'avaient pas fait de mammographie, jamais de mammographie. Donc finalement, et derrière cette expérience-là, pour faire vite, eh bien ces femmes, on leur a donné des rendez-vous de suivi médical, cardiovasculaire, gynécologique et médecin traitant. Donc ça, c'est très important. Donc finalement, si on fait rentrer...
Les remettre dans un circuit.
On les remet dans un circuit. Et finalement, c'est on remet la santé dans les cités, dans la ville, et on s'allie avec... C'est pas que des médecins entre eux, que des professionnels de santé entre eux, parce que on a besoin du milieu de l'entreprise. C'est clairement la nécessité.
Il y a quand même quelque chose qui me surprend quand vous nous dites que ces femmes sont absolument pas suivies. Muriel Salles, a priori, on se dit, les femmes, elles sont quand même amenées à consulter des médecins, ne serait-ce qu'au moment des grossesses. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête après?
Eh ben oui. Et les grossesses restent des épisodes qui durent assez peu de temps, en fait, en réalité, dans la vie des femmes. Donc, oui, en dehors du suivi de la grossesse qui s'impose, et heureusement d'ailleurs, dans notre pays pour les femmes, beaucoup de femmes, et celles qu'évoque Claire Mounier-Veillé, c'est notamment des femmes précaires. Et là encore, faut évoquer le fait que la précarité, c'est une problématique qui est plus particulièrement féminine. Eh ben, moi, je suis pas surprise d'entendre que la majorité et même l'intégralité de ces femmes pauvres sont sans suivi gynécologique. Puis la deuxième chose, à mon avis, importante à dire, c'est pour aller dans le sens de ce qui était dit précédemment, c'est qu'il y a un déficit d'attention des soignants aux douleurs féminines, et puis il y a un déficit d'attention des femmes elles-mêmes à leurs propres douleurs. Parce que moi, j'explique les choses dans les termes suivants à mes étudiantes et à mes étudiants, je leur dis, en fait, il y a tout un discours médical construit dans l'histoire qui fait des femmes des êtres, moi je dis, physiologiquement pathologiques. Ou pour dire les choses autrement, une femme qui va bien, c'est une femme qui va mal. Donc, dans la vie d'une femme, il y a plein de petits mots. Voilà, elle a une puberté, des règles, une ménopause, enfin, et tout ça est compris dans notre façon de concevoir les savoirs médicaux comme une multitude de petits dysfonctionnements. Et à partir de là, eh bien, on a tendance à minimiser du coup la prise en considération de ces dysfonctionnements. Les exemples qui commencent à sortir un peu, notamment sur la question de l'endométriose, montrent bien que les douleurs de règles ordinaires, c'est une chose. L'endométriose, ça concerne une femme sur 10 dans notre pays.
Cathy est au bout du fil et ça fait bien longtemps qu'elle patiente. Bonsoir, oui, Cathy. Merci.
Bonsoir.
Merci d'avoir attendu si longtemps. Vous souhaitiez témoigner?
Oui, alors moi j'ai aujourd'hui 43 ans. Et depuis à peu près 3 ans, je sais que je fais de l'hypertension. Donc je l'ai découvert un jour pour une visite chez mon gynécologue qui l'a détecté, qui m'a conseillé d'aller tout de suite aux urgences, donc ce que j'ai fait. Puis on m'a renvoyé chez moi. À la suite de cela, j'ai vu différents médecins qui, à chaque fois, quand je leur demandais ce qu'il fallait que je fasse pour mon hypertension, me disaient « Vous êtes trop jeune, il n'y a rien à faire ». Et puis, juste avant l'été de cette année, j'ai vu un anesthésiste qui m'a posé plein de questions. Et puis, je lui ai parlé de mon hypertension. Il m'a dit, mais il faut vous faire soigner, il faut aller voir le médecin et lui demander un traitement. Donc, je suis chez mon généraliste qui m'a prescrit un traitement. Et suite à ça, je me suis quand même rendue chez un cardiologue de moi-même. Et je lui ai expliqué ma situation en lui disant, ça fait 3 ans que je sais que je fais de l'hypertension, mais on me répète que je suis trop jeune. Et là, le cardiologue m'a dit, mais dans mon service, une infirmière de 30 ans a fait un AVC déjà. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir d'hypertension. Et il faut soigner l'hypertension, quel que soit son âge. Donc, j'ai pas de problème de poids. Je faisais du sport régulièrement. Voilà, j'avais rien qui chez moi me faisait sentir quelque chose de défaillant.
Merci, voilà. Cathy, merci pour ce témoignage qui est totalement approuvé par Claire Mounier-Veillé. Si je vois comment elle hoche la tête, il n'y a pas d'âge, il faut se soigner de toute façon, c'est ça.
Ben oui, mais en fait, on a 3 phases clés de dépistage de l'hypertension chez la femme. C'est au moment de la première contraception, avant et dans le suivi. Parce qu'on a 10% des prescriptions de contraception avec oestrogène donne de l'hypertension. La grossesse, quand le placenta se fabrique pas très bien. Et puis, l'entrée dans la ménopause, où là, c'est une femme sur deux à 50 ans, et 6 femmes sur 10 à 60, 7 femmes sur 10 à 70. Pour répondre à Sylvie, quand on a des femmes jeunes dans le centre d'hypertension, on a un centre européen d'excellence à Lille, mais il y en a une quinzaine en France, eh bien, ça fait partie des critères de dépistage d'une cause secondaire d'hypertension à traiter. Donc là, la dame peut aussi aller voir sur le site de la sfhta.eu. On a fait 2 consensus d'experts pour les femmes, HTA et grossesse, HTA hormones et femmes. Et là, elle va trouver les clés complémentaires à nos entretiens ce soir.
Voilà, et puis Agir pour le cœur des femmes.
Et Agir pour le cœur des femmes.
Sur votre site, avec plein de conseils. Moi, j'ai appris notamment qu'il faut se faire soigner les dents, hein, parce que ça peut être
oui,
très grave.
Oui, c'est une porte d'entrée infectieuse de la maladie des valves, qu'on appelle l'endocardite. Alors, pour Sylvie, juste pour terminer, si je peux me permettre.
Rapidement, parce qu'on a quasiment
fini. Oui, tout à fait. Elle peut télécharger les fiches automesures tensionnelles, s'acheter un tensiomètre au bras, et prendre elle-même sa pression artérielle avec les fiches qui sont extrêmement simples. Voilà,
et ben
pour faire court.
J'espère qu'on aura touché quelques personnes ce soir. Muriel Salle, indispensable effectivement de former la jeune génération des médecins. Il y a aussi des gens qui nous disent, c'est bien gentil tout ce que vous racontez, mais il n'y a plus de gynécologue, il n'y a plus de médecin. Et effectivement, c'est vrai que c'est un vrai souci et c'est une autre question. De toute façon, allez voir son médecin. Quand on en a un, si c'est possible, se faire suivre et puis ne pas minimiser des symptômes, c'est ça qui est...
Oui, puis préparer ses consultations. On donne de l'information sur des sites comme celui d'Agir. Eh bien, c'est préparer ses consultations avec tout son historique et déjà le médecin sera plus en écoute parce qu'on lui aura déjà préparé l'entretien. Ça, c'est très important.
Allez, le mot de la fin, il sera pour vous, Muriel Salle.
Et puis, effectivement, former des soignants, c'est une chose, mais je crois beaucoup, moi aussi, à l'éducation thérapeutique au sens large et pour un grand public. Et ça peut passer par des médias extrêmement divers. L'émission de ce soir en est un exemple. Moi, je dirige une rubrique santé dans un magazine qui s'appelle Femmes ici et ailleurs, dans lequel on parle régulièrement de santé des femmes et pas seulement de santé sexuelle et reproductive. Et tous ces moyens-là sont des moyens, comme les fiches téléchargeables en ligne qu'évoquait Claire Mounier-Veillé, de partager du savoir pour améliorer la santé de toutes et tous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis le bus, hein, bientôt à Saint-Etienne.
La prochaine, c'est La Rochelle. Dernière semaine d'octobre et première semaine de novembre, Saint-Etienne.
Merci
voilà.
Beaucoup. Merci à toutes les deux et merci à tous ceux qui nous ont appelés. Juste après les infos de 20h, Patricia Martin, leur philo. Bonsoir Patricia.
Bonsoir Saint-Vagent.
Qui vient ce soir?
Roger Paul Droit pour un voyage dans les philosophies du monde.
Eh bien, on va suivre ça attentivement. Merci Patricia Martin.